COVID-19, télétravail, rester proche de sa famille, rester proche de ses amis.
Vous avez rien compris? Ben, bienvenue dans Éclectique. Éclectique, c'est votre podcast qui traite d'applications, de technologies, d'écologie, de société et des découvertes. Et je suis Matt, alias prof du web, et bienvenue dans cet épisode spécial, hors série. Au début, je voulais le numéroter comme la suite des autres épisodes, mais je pense qu'on va appeler ça un épisode hors série. On va parler de télétravail, quelque chose de super contemporain dans ces temps avec le COVID-19. Je suis vraiment très heureux d'accueillir mon ami Philippe. J'en parle des fois dans mes podcasts, mon ami Philippe ou mon ami Suisse, mais je dis pas son nom vraiment des fois. Alors là, aujourd'hui, il y a Philippe. Bonjour Philippe, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Matt. Ça fait plaisir d'être enfin... de pouvoir enfin t'accompagner dans un podcast depuis le temps qu'on en parle.
Oui.
Effectivement, j'ai déménagé de Suisse il n'y a pas longtemps, donc j'ai encore pas l'accent québécois, raison pour laquelle on va vous faire voyager un petit peu dans cet épisode, je pense. C'est au niveau des accents, ça va être...
Pour mettre un peu de contexte, mon ami Philippe vient d'immigrer avec sa belle famille au Québec. Ça fait quand même maintenant plus de 6 mois. Pour certains trucs, je l'ai aidé, ou en tout cas, je l'ai coaché sur certains éléments. Et puis, faites comme Philippe, je le dis pas assez, même en COVID-19, on a besoin de monde, on est en manque de ressources. Et même Philippe, je pense que depuis que tu es arrivé au Québec, tu te rends compte qu'on est en manque de ressources, parce que toi, tu travailles dans la cybersécurité, et puis même dans votre domaine, ça arrête pas, vous avez besoin de monde en ce moment.
Alors oui, disons que le monde, il y a eu un changement quand même, on va dire, durant les 2 dernières semaines, où ouais. On est passé du plein emploi à beaucoup de chômeurs tout à coup, comme partout sur la planète. Par contre, c'est vrai que dans le domaine de la cybersécurité, le métier est encore porteur maintenant, et est d'autant plus porteur maintenant que la majorité des entreprises migrent sur le travail à distance, sur le télétravail. Et à partir de là, les infrastructures informatiques sont beaucoup plus critiques qu'à une époque où finalement, si un moyen de communication tombait en panne, on avait la possibilité de se réunir dans une salle pour en discuter, pour faire un meeting, pour discuter quelque chose, ou partager des feuilles ou des choses comme ça. Maintenant, on peut plus le faire. On espère temporairement et pour pas longtemps. Mais donc maintenant, le télétravail est devenu vraiment un élément critique des entreprises. Et là, la cybersécurité, surtout nous, on agit pas mal au niveau de la surveillance et puis de faire en sorte que les infrastructures soient disponibles. Là, on a un rôle clé à jouer sur cette période-là. Ouais.
Ouais, effectivement, parce que quand on parle de cybersécurité, on pense tout le temps aux méchants pirates. Mais c'est pas juste des attaques, c'est aussi la disponibilité des infrastructures, c'est aussi toutes sortes d'aspects au niveau cybersécurité. Alors, merci d'être dans cet épisode où on va parler justement de télétravail. Toi, en plus, ça donne très, très bien parce que tu en fais du télétravail depuis maintenant plusieurs mois. Hein?
Oui, alors c'est un des avantages que j'ai dans l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est qu'on n'est pas, assigné au bureau à longueur de journée. On peut travailler dans... C'est une entreprise, en fait, qui est prête pour le télétravail, qui a toute l'infrastructure qui permet de le faire, etc. Donc ça fait bien quelques temps maintenant que je le fais régulièrement. Pas sur une aussi longue période, que ça demande, on le verra plus tard, mais ça demande quelques ajustements. En général, pas avec les enfants non plus à la maison. C'est aussi d'autres ajustements qu'on va parler tout à l'heure. Mais oui, c'est quelque chose que je pratique et c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Et ça demande de l'organisation, ça demande de la discipline, ça je pense que vous l'avez vu, tout le monde en parle. Mais c'est quelque chose qui est très bien parce que ça permet d'éviter des déplacements qui sont inutiles, ça permet de gagner du temps finalement sur ces temps de déplacement, ça permet d'économiser aussi parce que finalement on peut manger à la maison, on peut...
Ouais.
Il y a plein de choses qui font que ça peut apporter pas mal de choses et on voit maintenant, d'autant plus avec le Covid-19, que la planète se porte mieux aussi. C'est-à-dire que...
Moins de pollution.
Il y a la pollution et il y a aussi le fait que les routes sont désengorgées. Donc il y a plus de, il y a beaucoup moins de bouchons, il y en a plus même. Et puis on a une conciliation, on va dire famille travail, qui est plus facile en faisant du télétravail, qui est plus difficile sur certains aspects, mais qui est plus facile aussi parce qu'on peut éventuellement prendre une pause pour aller chercher les enfants à l'école, les ramener à la maison, chose qu'on peut pas faire si on travaille dans une entreprise ou voilà.
Bon, ouais. Puis pour la petite histoire, pourquoi on peut se le permettre de le faire, Philippe et moi, d'aller chercher les enfants quand on est en télétravail? Ben parce que nous, on habite juste à côté de l'école. Alors, physiquement, ouais. Physiquement, on est très, très chanceux pour ça aussi. On va aller dans le vif du sujet, le dossier que j'ai préparé. Ben, en fait, le dossier vient d'un article du Washington Post qui est super intéressant. Et on va passer point par point. Et puis, si tu as des commentaires, Philippe, ben, on les ajoute au fur et à mesure de chacun des points par rapport au télétravail. Alors, on part du principe qu'on est obligé de faire du télétravail. On part du principe que il faut avoir tout ce qu'il faut. Alors, le premier point, c'est effectivement, lorsqu'on fait du télétravail, il faut vraiment s'assurer qu'on dispose de tous les outils dont on a besoin, d'un bon ordinateur portable, d'un accès réseau qui va bien, des codes d'accès de l'entreprise pour pouvoir aller où ce qu'il faut dans l'entreprise ou si on a besoin d'aller utiliser des outils, et puis des instructions de connexion à distance. Faut pas oublier la sécurité parce que on peut pas se permettre d'aller sur le réseau d'entreprise avec un ordinateur moyennement bien configuré, avec son vieux ordinateur sur Windows XP sans antivirus, hein, Philippe? Je pense que c'est pas des recommandations qu'on ferait.
Non, et c'est d'autant plus le cas maintenant parce que vu l'urgence que les entreprises ont dû prendre pour se mettre au télétravail, certaines entreprises n'étaient pas prêtes, n'avaient pas le matériel disponible pour les collaborateurs. Ils n'ont pas pu demander à un collaborateur de prendre le PC fixe pour se rendre à domicile, forcément. Certaines entreprises ont décidé de laisser les collaborateurs utiliser leur ordinateur privé pour se connecter au réseau de l'entreprise. Et là, se pose toute une question liée à la sécurité, c'est-à-dire principalement l'antivirus, principalement le cloud personnel, etc. Donc là, tout ce qui est info nuagique, est-ce que la personne elle met des documents dans ses services personnels, des choses comme ça. Donc il y a toutes des étapes liées à la sécurité qui s'ajoutent dues à l'urgence de la situation qu'on vit maintenant. Mais dans tous les cas, les entreprises doivent veiller à protéger leurs ordinateurs.
Alors, puis j'aimerais juste faire un petit... Il y a la sécurité des données, mais il y a aussi la sécurité des employés en tant que tels. Je me rappelle que mon employeur nous a envoyé, nous, des notes concernant l'ergonomie. Ça a l'air tout con, mais quand on est installé dans un bureau physique, l'employeur... en fait, je vais partir du principe que la raison première d'un employeur dans le milieu de travail, c'est de rendre le milieu de travail sécuritaire. Mais là, il n'y a plus aucun contrôle. Étant donné l'événement qui arrive, il n'y a plus du tout de contrôle sur ce qui arrive. Alors, autant la cybersécurité, autant vos postes informatiques, vos comptes, et ainsi de suite, il faut faire attention, il faut être vigilant. N'hésitez pas à demander au DSI des règles, des processus, des procédures pour pas mal faire les choses. Ne vous improvisez pas technicien informatique, appelez, il y a des ressources pour ça qui peuvent vous aider. Et puis, évidemment, on ne dira jamais assez, ayez le bon matériel. Et puis, quand on dit aussi au niveau numérique et au niveau physique, toi, Philippe, quand tu travailles des heures, j'imagine que tu as une installation, un setup à respecter pour avoir un écran, exemple, en face de tes yeux, pour avoir toutes sortes de configurations pour pas être fatigué du coup, pour avoir le bon matériel. On n'utilise pas n'importe quoi non plus quand on est à la maison.
Non, alors l'écran, c'est bien un des premiers investissements que j'ai fait. Donc, j'ai investi dans un bon écran avec un support sur le bureau donc, qui me permet d'ajuster la hauteur. Ça, c'est une chose qui est importante. Tout ce qui est annexe à l'ordinateur aussi, la chaise, ouais. Le bureau, c'est aussi quelque chose d'important. Maintenant, dans ces temps un petit peu plus compliqués, je me suis improvisé un bureau debout, un standing desk, sous la forme de deux cartons qui sont empilés avec l'ordinateur posé dessus. Ouais. Mais ça me permet de travailler debout, ouais. Tout simplement. Ouais. J'ai aussi adopté une petite astuce, c'est si je dois lire un document ou si je dois faire une visioconférence ou quelque chose, je me permets aussi des fois d'utiliser l'iPad. Ouais. Ce qui me permet en fait de lire le document debout, ce qui me permet de me déplacer. Et même si on a des meetings qui durent un peu long comme ça, je bascule sur le à la limite sur l'iPhone ou autre avec les écouteurs, les AirPods. Et puis je me balade pour l'instant dans l'appartement, mais ça me permet de faire quelques pas. Donc faites aussi attention à la santé, au niveau du dos, etc. Parce que là, j'ai mon bureau qui se trouve être dans la chambre à coucher, étant donné que je suis en appart pour l'instant. Donc je me lève du lit, je m'assieds sur la chaise du bureau. Je me lève de la chaise du bureau pour aller manger, je m'assieds sur une chaise. Et finalement, on passe nos journées assises à pas bouger. Et c'est quelque chose qui est vraiment important.
Ouais, effectivement, ne négligez pas l'espèce de sécurité physique que vous pouvez avoir. Travailler debout, c'est un super bon truc. Moi, j'ai certains meubles IKEA qui est des commodes qui font que je suis capable de mettre mon laptop dessus puis de travailler, tu sais, qui sont à la bonne hauteur pour moi. Il y a peut-être un meuble chez vous où vous pouvez faire ça aussi pendant quelques temps. On va continuer dans le setup idéal. Dans le point 2, ce serait de minimiser les distractions et les bruits provenant des autres membres du foyer. Là, c'est un cas particulier, c'est la COVID-19, on n'a pas le choix d'être avec les enfants, mais si vous pouvez, essayez de trouver un endroit que vous allez appeler bureau. Vraiment, faut l'appeler bureau, c'est votre endroit à vous pour travailler, où vous pouvez être loin des distractions. Alors évidemment, ça dépend, les réalités de tout le monde sont différentes, mais si par exemple... vous avez qu'une pièce et puis que cette pièce-là, c'est là où vous avez la télé puis que les enfants sont là, vous n'avez pas le choix. Mais comme Philippe ou comme moi, si vous êtes en mesure d'avoir un lieu un peu plus reculé, sans avoir les enfants, sans télé, ben là, c'est un petit peu mieux pour travailler. Alors, minimiser les distractions, c'est assez important. Évidemment, il y a un contexte particulier qu'il faut comprendre. Séparer autant que possible votre espace de travail de votre espace personnel. Comme le dit Philippe, lui est en appartement. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison où j'ai fait exactement un setup qui me plaît pour travailler, qui est bon pour moi. Mais il faut vraiment avoir un lieu où on appelle ça un bureau pour travailler. C'est pas un bureau pour dessiner avec les enfants. C'est pas le bureau où on fait le bricolage. C'est vraiment votre bureau à vous. Il faut absolument respecter ça. Les règles d'ergonomie, quatrième point, on en a parlé. C'est très, très important de les respecter parce que vous allez voir, ça sera pas très long. Que ça va prendre physio, ergo et ainsi de suite, pas ergo, mais au niveau de l'ergonomie, faudra avoir des problèmes. Puis là, dans ces temps-ci, vous allez peut-être avoir de la difficulté à avoir des spécialistes de la santé. Alors faites attention. Un truc que toi, je ne sais pas si tu utilises au niveau du travail, est-ce que tu te mets des bouchons, est-ce que tu t'isoles des bruits des oreilles, est-ce que tu utilises tes AirPods Pro que tu as, je sais.
Oui, alors j'ai la chance d'avoir les AirPods Pro et très honnêtement, ils sont vissés une bonne partie de la journée sous mes oreilles.
Ouais.
J'ai aussi un écouteur Sony anti-bruit que j'avais acheté. C'est un peu d'entrée de gamme, mais ça suffit aussi. Ça fait aussi pas mal le travail pour une configuration comme on a là. Oui, il faut. Je pense que par moment, il faut s'isoler et il faut se couper complètement du monde extérieur. Maintenant, c'est à double tranchant. Enfin, après, ça dépend aussi des personnes. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps entendre ce qui se passe autour de moi.
Ouais.
Sur mon lieu de travail, on est en bureau ouvert, donc on est une quinzaine de collaborateurs dans le même bureau, donc il y a forcément du bruit. Et finalement, le bruit de mes enfants, le bruit qui est à la maison, revient un petit peu au même. Donc non, c'est un espèce de compromis, mais je fais la même chose au travail, je mets aussi des fois les écouteurs pour m'isoler. Je pense que ça dépend de la situation sur laquelle je travaille. Où c'est plus dur, au niveau du bruit, c'est quand on a des meetings ou des choses comme ça,
ouais.
Avec des clients, et qu'on a les enfants qui commencent à crier.
Ouais.
C'est forcément là qu'ils sont pas contents, c'est à ce moment-là qu'ils décident de se manifester.
Ouais.
Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est compréhensif, et puis tout le monde connaît... Et puis ceux qui connaissaient pas jusqu'au jour d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils vont connaître la problématique, donc je pense que ce côté-là, voilà, on vit avec. Et puis,
ouais, effectivement, et puis... là, on va arriver sur le point, lors des conférences téléphoniques ou lorsque vous faites de la visio... ben quand il y a des bruits ou quand vous parlez pas puis que vous savez qu'il y a des bruits qui pourraient déranger la communication, ben n'hésitez pas à fermer le micro. Il y a toujours un micro dans toutes les applications de visioconférence ou de téléphone, un bouton mute. N'hésitez pas à l'utiliser parce que les applications de visioconférence sont souvent bien réglées pour dès qu'il y a une personne qui parle, mettre une prédominance sur la personne qui parle. Mais dès qu'il y a tout le temps du bruit, l'autre personne qui parle, là, ça va être inaudible. Alors, oubliez pas de couper le micro. Et puis, tu sais, moi, j'ai travaillé avec des gens dans la firme à Philippe dernièrement, puis ils font des travaux dans leur bureau. Alors, on entendait les marteaux et ainsi de suite, parce qu'ils agrandissent. Je vous dis, à part le COVID-19, il n'y a rien. Qui empêche l'expansion du Québec en ce moment. Alors, oubliez pas de fermer le micro s'il y a des rénaux, s'il y a des enfants. Lorsque vous ne parlez pas puis vous faites une visio, utilisez ce petit truc-là. Au niveau cybersécurité, Philippe, il y a ton ordinateur, il y a ta configuration, et ainsi de suite. Mais il y a un autre élément qu'on a tendance à oublier, c'est la webcam. On peut, à partir de la webcam, donner de l'information qu'il ne faudrait pas ou qui serait à risque pour l'entreprise, je ne sais pas, un rapport annuel avec des charts, avec des graphiques, ou même tout simplement quelque chose qu'on va dire que c'est bon, mais peut-être que quelqu'un a mis sur un post-it un mot de passe. Faire attention à la caméra.
Oui, la caméra, c'est un élément important, et faites aussi attention aux informations que vous transmettez à l'arrière-plan. On ne fait pas forcément attention à ce qu'on a derrière nous, mais il peut y avoir certaines informations qui peuvent être soit confidentielles ou soit privées, et puis on ne veut pas forcément de les partager. Pendant les vidéoconférences, etc., pour éviter d'avoir ce genre de choses-là, la plupart des outils maintenant ont des options de floutage d'arrière-plan,
ouais.
Qui vous découpent en fait en direct le visage. Ça marche plus ou moins bien, mais ça floute l'arrière-plan de manière assez correcte, donc ça vous permet quand même de garder un petit peu une sphère privée. Même si vous êtes à domicile, vous n'êtes pas obligé de chaque fois décrocher les différents
tableaux,
cadres de toute la famille ou tableaux de toute la famille, ouais. Comme ça. Donc, faites attention à cet élément-là. Une petite astuce aussi, faites attention que la réunion est bien terminée et coupez bien vos micros et vos webcams à la fin de la réunion, parce que ça ne va pas tarder qu'on va avoir des moments cocasses sur Internet, où les gens oublient finalement de raccrocher et puis ça continue à filmer ou d'enregistrer.
Absolument. Dis-moi, en termes d'outils, moi j'en ai utilisé plusieurs ces derniers temps. Nous, on utilise au bureau Microsoft Teams. Moi, personnellement, ça fait des années que je suis sur Google, alors j'ai la chance d'avoir aussi un outil qui s'appelle Google Meet. Mais il y a quand même des options gratuites. On va les nommer, Philippe, t'en avais quelques-uns, t'as même rajouté un élément. Au niveau des gratuits, des applications, qu'est-ce qu'il y a pour faire des visioconférences?
Ça s'est pas mal démocratisé, encore une fois, ces dernières semaines. Il y a des outils tels que Teams, qui ont des fonctionnalités aussi gratuites pour les personnes qui ont des Office 365. En édition famille, on va dire, en édition privée. Il y a des outils tels que Zoom, tels que Cisco Webex. En fait, un petit peu tous les grands acteurs majeurs au jour d'aujourd'hui proposent une version gratuite, limitée soit en temps, en durée, ou soit en nombre de participants. Mais ça permet quand même, pour une entreprise ou une PME, ou comme ça, de démarrer quelque chose avec les outils gratuits qu'ils utilisent. Et s'utilise. Et puis, hors du télétravail, ça permet aussi de rester en contact avec ses proches, peut-être de manière plus groupée, avec ses familles, etc., avec ces outils-là. Donc, je pense qu'il y a une bonne opportunité là. Effectivement, on a cité Zoom, Webex, Teams, FaceTime.
Skype, Hangout, au niveau micro. Duo aussi, Google, qui je pense qui est encore fonctionnel. Il y a quand même beaucoup de solutions. Sortez pas trop des champs connus des choses pour deux aspects. Le premier, au niveau de la sécurité, je fais quand même beaucoup plus confiance à une solution comme Teams, Microsoft, Skype ou Hangout que quelque chose qui arrive de Chine que je ne connais pas. Sur plusieurs aspects, je fais beaucoup plus confiance, même aux versions gratuites de ces GAFAM-là. Et puis aussi, l'autre aspect de pas sortir trop des champs connus, c'est que bien souvent, des gens ont déjà des comptes Google ou ont déjà des comptes Microsoft. Alors, si vous êtes un peu technologue, vous allez avoir besoin de switcher des fois du FaceTime, des fois du Skype, des fois du Hangout. Fait que ça vous donne plusieurs cordes à votre arc pour pouvoir switcher.
Ouais, peut-être que je rajouterais, plutôt que... Parce que finalement, tous les outils font à peu près la même chose au niveau visioconférence. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on a un standard plus ou moins établi. Par contre, ce qu'il faut regarder aussi, c'est un petit peu les outils annexe à la visioconférence. On a des outils, si on prend Microsoft Teams, qui est un petit peu le leader et puis qui est en train vraiment de s'imposer un petit peu partout. Il y a des outils comme le whiteboard, comme le tableau blanc, qui peuvent s'accompagner de la visio, donc qui permettent quand même de dessiner quelque chose, de faire un schéma, de le partager en direct. Il y a des outils de collaboration de fichiers aussi qui sont importants. Quand on fait un meeting, peut-être qu'on veut tout le monde travailler sur le même fichier, tout le monde compléter un fichier en même temps. Je pense que c'est ça qui va faire qu'on va choisir un outil A plutôt que l'outil B. C'est par rapport aux fonctions qui sont autour de ça. Il y a aussi des outils qui sont faits, si on prend des outils comme Zoom ou Cisco Webex, qui sont plus faits pour sous forme de présentation, c'est-à-dire de faire une espèce de
PowerPoint ou des choses comme ça.
Ouais, pas forcément, mais un webinar ou quelque chose où voilà, il y a un présentateur et puis il y a 200 personnes qui suivent la présentation qui se fait. Ces outils-là seront optimisés pour le dialogue, pour les questions. Il y aura des classes qui seront là, et puis les gens peuvent poser leurs questions. Il y a des modérateurs qui peuvent voir les questions en direct, etc. Donc, les outils sont là. Il y a une multitude d'outils. En résumé, c'est utiliser l'outil qui convient à vos besoins, la visioconférence et le reste. Mais surtout, faites attention à qui vous donnez vos données et faites confiance aux grands joueurs du marché pour l'instant.
Oui.
Pour éviter de vous disperser. Au niveau de la cybersécurité, ce que c'est important dans toutes ces technologies qu'on met en œuvre là, c'est la dispersion. faites attention de rester le plus groupé auprès d'un prestataire. Parce que si vous avez des comptes chez Microsoft, chez Google, chez Dropbox, chez X, Y compagnie, ça devient beaucoup plus difficile d'être sûr que vous n'avez pas des données qui sont pas à l'endroit où elles devraient être, ou respectivement que vos mots de passe risquent pas une fois d'être volés, ou des choses comme ça. Donc, réduisez le nombre d'outils que vous utilisez, mais utilisez les bons outils.
Voilà. Ouais, effectivement, tu fais bien de le rappeler, parce que dans le fond, c'est pas juste la démocratisation accélérée de la visioconférence, mais c'est la démocratisation accélérée du cloud qui est en train d'arriver en ce moment. C'est pas nécessairement juste les outils de visioconférence dont on parle, c'est aussi des outils de télétravail. Et puis, ce que dit Philippe, c'est totalement vrai. Faites attention de ne pas trop vous disperser, parce que vous allez avoir un peu de données un peu partout. Puis aussi, dans tous vos comptes que vous allez utiliser, je ne saurais que vous encourager, en fait, vous forcer. Si vous écoutez Eclectic, vous allez vous forcer. Vous mettez le multifacteur sur tous vos comptes que vous avez. Vous savez qu'avec un multifacteur, vous réduisez la surface d'attaque d'une manière incroyable. Si vous utilisez le même mot de passe un peu partout, ben au moins, si vous avez mis le multifacteur, que ce soit un SMS, que ce soit Google Authenticator, ou que ce soit OT, ou d'autres applications qui font un multifacteur, ben ça commence à être pas impossible, mais passablement compliqué à une personne d'aller chercher vos données. Toi, je pense, Philippe, tu t'encourages aussi le multifacteur. Hein?
Alors, partout où on peut le mettre, oui, bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut être conscient, c'est que pour les comptes privés, c'est assez facile à mettre en œuvre, parce que finalement, l'entreprise avec laquelle on fait affaire, Microsoft ou autre, le propose aux comptes privés. Pour les comptes professionnels, là, on se rend compte, on a certaines entreprises qui ne mettent pas volontairement le double facteur en marche, parce qu'ils doivent déployer rapidement le télétravail partout à tous les collaborateurs. Mmh. Et en ces temps-là spéciaux, le double facteur peut avoir un deuxième effet qui se coule, ceux qui ont connu l'époque des qui se coulent. Mais en fait, ça peut poser pas mal de problèmes aux personnes des services informatiques.
Du support.
Du support, parce qu'il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne, il faut installer les applications pour gérer le multifacteur, etc. Mmh. Et dans l'urgence dans laquelle on est là, ça peut poser des problèmes. Donc, oui, sur vos comptes privés, mettez-les au maximum, mais allez pas voir votre service informatique en leur disant « Moi, je travaille plus parce qu'il n'y a pas le double facteur. » Non. Possiblement qu'ils l'ont volontairement pas mis en œuvre parce que ça pose des problèmes techniques derrière.
Effectivement, tu fais absolument bien de le rappeler au niveau professionnel, mais au niveau personnel, mettez-le partout. Pour ce qui est de planifier des rencontres, toujours utiliser ces outils-là. Nous, on utilise Microsoft Teams. Il permet de planifier des rencontres. Google Meet aussi. De la minute que c'est professionnel, comme disait Philippe, il n'y a pas juste la visio, mais aussi toute l'organisation qui est autour, c'est-à-dire le partage de documents, la planification dans les agendas. Et puis aussi, bien souvent, en fait, même tout le temps, il permet aussi d'avoir un moyen autre que la visio pour participer à ces applications-là quand c'est dans le domaine privé. Exemple, Microsoft Teams, Zoom, WebEx, ou ces affaires-là plus professionnelles, ils envoient aussi le moyen de connecter à une rencontre via téléphone. Alors, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là au niveau professionnel. Si le courrier électronique mène au malentendu, décrochez le téléphone et discutez. On vient de parler de visioconférence, mais il y a beaucoup de communication que vous allez faire par écrit. Et puis, ça va m'amener à un autre point. Je le dis tout le temps, le courriel, c'est du spam maintenant institutionnel, corporatif. Il faut faire attention à ça. Et on peut facilement, ça peut facilement dégénérer les courriels et les discussions par écrit. Alors, n'hésitez pas à prendre le téléphone ou envoyer un petit message, un petit SMS à une personne pour dire « Est-ce que tu es disponible là? » Respectez aussi le temps de l'autre. J'aimerais te parler de vive voix. Des fois, ça va sauver beaucoup de temps, ça va sauver beaucoup d'échanges. Alors, n'hésitez pas à parler. Ça va vraiment, vraiment beaucoup plus vite. Et puis, j'ai remarqué un truc, et puis moi, je fais partie de ces personnes-là. C'est un point que je parlais, attention au comportement au bureau, là. C'est des points que j'allais évoquer plus tard, mais je vais y aller tout de suite. J'ai tendance à évoquer des pensées, des idées à moitié prêtes, moi, habituellement, sur mes médias. Je suis dans la vision, je suis dans le futur, dans l'innovation, moi, dans le domaine de métier. Et puis, j'ai tendance à parler de trucs qui pourraient arriver. Et puis, j'utilise souvent du conditionnel dans mes phrases, mais même du conditionnel par écrit, des fois, les gens, ils prennent ça comme du tout cuit. Alors, faut faire attention, l'écrit, je sais qu'on va en faire peut-être plus parce qu'on va voir moins ses collègues, mais il y a des gens qui prennent ça vraiment au pied de la lettre. Alors, n'hésitez pas. Pour vrai, c'est un super bon truc que j'expérimente depuis quelques mois maintenant. Parler aux gens. Pas qu'il faut pas rien écrire, puis faut pas laisser de traces, mais des fois, on n'a pas le choix, on est des humains. Il y a des intonations de phrases, il y a des intonations de il y a des contextes dans une discussion qui sont super importantes, puis que vous pouvez pas transposer dans de l'écrit, ou qui sont des fois parfois trop longs à expliquer en écrit. Et puis, ben moi, je remarque que les gens ne lisent plus ou pas. Alors, essayez d'utiliser le plus possible le téléphone. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, des malentendus par écrit, et puis qu'un coup de téléphone, ça a tout réglé, Philippe?
Alors oui, forcément, quand on écrit, on n'a pas tout le contexte qui va autour, comme tu l'as dit. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que là, on vit une époque où beaucoup de personnes ne sont pas habituées à faire du télétravail, ne sont pas habituées à communiquer que par écrit. Slack et tout ça, pour beaucoup de personnes, c'est nouveau. Quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et nous, on est habitués, on sait par écrit, on sait comment ça se passe, on sait qu'il y a... Il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention, mais des autres personnes peuvent très bien être choquées par une façon d'écrire, par une phrase qu'on prononce ou comme ça. Donc, effectivement, faites attention. Et puis, pas oublier, comme on est tous dans notre coin, on n'a pas le contexte de la journée. Une phrase, si je vois quelqu'un au café, qu'on discute, qu'il voit un petit peu mon attitude de la journée, je suis de bonne humeur, je suis de mauvaise humeur, etc. Et puis que je lui écris quelque chose après, il va prendre ça en compte. Même de manière non volontaire, mais là, il n'a aucune idée de la journée que je suis en train de passer. Il ne sait peut-être pas que j'ai mes enfants, ça fait 2 heures qu'ils sont en train de prier, et puis voilà. Et je pense que ça peut amener beaucoup de malentendus. Donc effectivement, continuez à vous appeler, c'est quelque chose d'important. Et je rajouterai juste un point aussi par rapport aux webcams, parce qu'on parlait des webcams au tout début de l'émission. Allumez vos webcams quand vous faites une vidéoconférence.
Ouais.
Voyez-vous. Regardez les gens. Au début, on a commencé nos meetings, on avait tous nos webcams éteintes. Allumez les webcams. Là, typiquement, je suis avec Matt, on est en train d'enregistrer le podcast, je vois Matt, je vois son attitude, je vois... Et simplement, voilà, on se voit pas physiquement, on se voit virtuellement, mais ça nous donne l'occasion de partager des choses peut-être en plus. L'image compte autant que les mots, je pense.
Ouais.
Et on a tendance à l'oublier.
Oui, effectivement. Et puis, ça peut faire même partie des règles de convenance au début d'une visioconférence. Ça peut aider beaucoup à ce que les gens ne se parlent pas les uns par-dessus les autres. Et bien souvent, nous, on a un petit truc, c'est de la minute que vous voulez parler, vous levez le doigt. C'est aussi con que ça. Je sais, ça peut faire très paternaliste, très... mais avec l'image, vous allez pouvoir, si la personne organise la rencontre et puis qu'il y a un maître de cérémonie, là, vous allez pouvoir céder la parole à la personne. Comme ça, vous allez pouvoir respecter le temps d'écoute et pas empiéter les uns par-dessus les autres. Alors oui, effectivement, l'image, t'as tellement raison, Philippe. On dit l'image vaut mille mots. C'est pas vrai dans les faits, mais dans ce contexte-ci, c'est vrai que ça ramène beaucoup plus d'éléments de contexte. Puis c'est super intéressant d'avoir ça. Puis des fois aussi, ben, ça peut permettre un petit small talk au début. Tu sais, au début de rencontre, on est un petit peu pour, ça nous prend des icebreakers pour commencer une discussion. Fait que des fois, je pourrais dire, ah, Philippe, je vois ton portrait de, ton image en arrière ou ton tableau en arrière, puis tu peux en parler, puis ça fait des icebreakers. Mais effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec Philippe, se voir puis se parler, ça évite beaucoup de situations problématiques. On va parler un petit peu de technologie, on va parler un peu des réseaux. On peut pas faire du télétravail, on en a parlé au début, ça prend les bons outils, mais ça prend aussi la bonne connexion. Si vous pensez faire du télétravail avec des connexions moyennement bonnes, qui sont pas rapides parce que vous avez voulu économiser, puis c'est correct, mais en ces temps où on a besoin d'être constamment sur un réseau et que votre famille aussi est probablement sur le réseau à la maison en même temps que vous, va falloir upgrader votre réseau, c'est sûr. Va falloir prendre des résolutions pour augmenter la vitesse. Si vous êtes capable d'avoir la fibre, ben c'est peut-être le bon moment d'y penser parce que là, vous avez besoin de bonnes connexions. Et puis, même si le Wi-Fi, c'est super intéressant, le sans-fil à la maison, c'est super intéressant pour la mobilité et tout ça, pour vos postes de travail, je dois dire qu'il n'y a rien que comme le fil. Un fil, c'est vraiment idéal. Si vous pouvez le faire, je sais que Philippe, il est en appartement, il peut pas nécessairement le faire, mais il y a des fois aussi des petites boxes que vous pouvez vous installer qui passent par le réseau électrique, qui peut peut-être vous aider pour extensionner le fil. Mais le fil, pour le Wi-Fi avec des maisons, des murs, c'est parfois difficile. Toi, est-ce que tu as expérimenté certaines lenteurs à cause de tes murs de maison, Philippe?
Pas plus tard qu'au début de l'enregistrement, où j'ai eu quelques difficultés, même si ça m'arrive normalement jamais. Mais non, là j'ai l'avantage d'avoir une très bonne connexion. Comme tu l'as dit, on a l'avantage d'avoir la fibre ici dans le village, la ville où on est. Mais si vous n'avez pas cette chance-là, on parlera des enfants un peu plus tard, mais votre conjoint, vos enfants, tous les membres de votre famille, indiquez-leur que vous travaillez. De la même façon que vous fermez peut-être la porte et puis vous leur dites « Maintenant, moi, je travaille, donc vous me laissez tranquille », entre guillemets. Dites-leur simplement « Je vais faire une téléconférence. Arrêtez YouTube. Arrêtez Netflix. Maintenant, vous faites autre chose. Vous arrêtez les écrans un petit moment. Vous faites votre vidéoconférence et puis reprenez après.
Ouais, » exact.
Je pense que c'est aussi un petit peu... il faut aussi jouer un petit peu là-dessus. Si on n'a pas la chance d'avoir des bonnes connexions, finalement, on se partage la connexion. Donc, chacun fait un petit peu au moment où il peut.
Oui, effectivement.
C'est aussi important.
Puis, on rappelle, si les enfants veulent être distraits, c'est correct. Ces temps-ci, on sait qu'on va péter le score de tablettes puis de téléphones pour certains ou d'iPod. Mais il y a quand même des applications où on peut télécharger à l'avance les films. Alors, si vous pouvez peut-être mettre les tablettes en mode avion, le temps que vous avez des visioconférences, ça peut peut-être aider. On parle d'enfants. On va dans le segment « Les parents à la maison ». Comment ça se passe, toi, ton côté du télétravail avec ta conjointe à la maison et les enfants? Est-ce que ça va bien?
Alors, les enfants, je les gère. Ma conjointe, non. Non, écoute, tout se passe bien. J'ai la chance d'avoir ma conjointe qui ne travaille pas.
Ouais.
Donc, elle travaillait déjà pas avant le virus. Donc, elle était à la maison. Donc, elle a déjà un rythme de s'occuper des enfants, de prendre en charge les enfants, etc.
Ouais, donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, elle travaille. Mais elle travaille pas pour quelqu'un d'autre.
Oui, bien
d'autre.
Sûr. C'est ça. Non, on est d'accord. Elle fait sa part de travail, mais elle n'a pas un emploi en tant que telle. Et je la remercie beaucoup, d'ailleurs. Je sais qu'elle écoutera l'émission, donc on va monter la boîte à bon point.
Clin d'œil.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça se passe bien. Ça se passe beaucoup mieux que ce que j'appréhendais, en fait. Le télétravail, je l'ai pratiqué avant, mais les enfants étaient à l'école. Donc finalement, la journée, il y avait mon conjoint et moi. Entre adultes, ça se passe bien. Là, avec les enfants à la maison, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais je crois que les enfants ont compris. J'ai la chance d'avoir des enfants qui ont 8 vieux, et 10 ans, donc ils sont un petit peu plus vieux. Donc ils sont autonomes, en fait. Ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, ils sont capables de comprendre. Il y a des moments où on ne peut pas déranger, etc. On a mis aussi certaines règles. C'est-à-dire qu'on a fait une petite affiche qu'on met sur la porte de la chambre quand on veut pas être dérangé. Et puis je leur ai expliqué simplement, s'ils veulent venir me voir, ils peuvent venir quand ils veulent. Ça fait partie aussi du télétravail, je pense. Par contre, ils ouvrent doucement la porte de la chambre. Ils regardent. S'ils voient que je suis occupé ou comme ça, et que je leur ai pas répondu, ils viennent vers moi et ils me donnent un petit coup sur l'épaule. Et à partir de là, si je réagis pas, c'est que je suis dans quelque chose, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je suis en communication ou je suis pris dans quelque chose. Et sinon, je tourne la tête et puis je leur explique et puis on discute, etc. Donc, je pense qu'il faut mettre certaines règles en place. À l'école, ils doivent lever la main pour s'exprimer. Ben là, ils frappent, ils viennent me taper sur l'épaule pour me dire « Papa, j'ai quelque chose à te dire ». C'est clair que quand on a le casque anti-bruit, on ne les entend pas.
C'est clair.
Quand on est concentré dans quelque chose. Donc, ils n'arrivent pas à savoir si on est en communication ou pas. C'est compliqué pour eux de comprendre ce concept-là.
Ouais.
Mais simplement un petit coup sur l'épaule, tout discrètement, et puis voilà. Et puis mes collègues savent que j'ai des enfants, et puis s'ils voient une main apparaître sur mon épaule, c'est pas non plus la fin du monde. Je pense qu'on est capable de s'adapter.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est un excellent truc. Moi, mon truc que je peux vous donner, j'ai des ampoules de couleur, et le corridor avant de mener à mon bureau, de la minute que je suis en visio ou que je fais un podcast, ça fait des années que je fais ça, je demande à mon assistant connecté de la mettre en couleur rouge. Pour dire que je suis en enregistrement, de ne pas déranger. Effectivement, le truc de Philippe est vraiment bon. J'ai vu aussi certains parents qui demandaient à leurs enfants qui étaient un peu plus grands de leur envoyer un petit message texte. Alors, des fois, on a des applications de famille. Peut-être, nous, chez nous, vous vous doutez bien, on est tous sur Apple. Alors, mon fils, son iPod, m'envoie un petit iMessage, mais ça pourrait très bien être dans une autre application de messagerie. Alors, c'est un excellent truc. Et puis, effectivement... oui, il va avoir les enfants à la maison. Moi, ma conjointe travaille en même temps. Pour le moment, on arrive à gérer, mais c'est plus sur les épaules de ma conjointe parce qu'évidemment, les enfants ont plus tendance à aller voir la personne la plus gentille des deux. Je vous donne en mille, c'est pas moi tout le temps. Parlez-en à votre responsable au travail que vous avez un problème de garde d'enfants. C'est très important. Si on vous demande de travailler à domicile et que les garderies, les écoles sont fermées, les crèches pour l'Europe, ça peut affecter votre capacité de travailler à distance, puis ça peut aussi, votre niveau de productivité. Alors, c'est super important de le dire à votre responsable, votre gestionnaire, votre boss, votre patron. dites-leur que votre prestation ne sera pas identique. De toute façon, si vous avez fait du télétravail présentement dans les derniers jours en mode roche, comme disait Philippe, en catastrophe, c'est sûr que votre prestation ne va pas être identique le temps de vous adapter. Mais là, ça risque d'être encore un petit peu plus pénible avec les enfants. Quand vous avez des enfants un peu plus grands, comme Philippe, ben, ça peut se gérer un peu mieux. Moi, dans mon cas, j'en ai un de 4 ans qui demande beaucoup, beaucoup d'attention. Alors, ça devient difficile. On commence à penser avec ma copine d'instaurer des heures de travail. Alors, de telle heure à telle heure, ça serait moi. De telle heure à telle heure, ça serait elle. Ce qu'on fait aussi, on a fait un espèce de plan. On l'a expliqué aux enfants. Ma copine a fait ça. C'est une super bonne idée. On sait qu'à telle heure, à 10h15, on se réunit tous dans la cuisine, on prend une pause ensemble, on prend une petite collation. Après ça, on repart travailler 1h30 ou 2. Et après ça, l'heure du dîner, on le fait tous ensemble. On instaure une espèce de routine. Les petits, si vous avez la chance, ben dans l'après-midi, il y a des siestes qui arrivent pour eux autres. Alors, vous allez peut-être pouvoir profiter de ces siestes-là pour pouvoir faire du télétravail. Toi, je t'en ai parlé, ça fait plusieurs fois que je t'en parle, puis tu m'as dit une phrase que j'ai gardée pour les réflexions en bas, mais pour combattre le sentiment d'isolement, alors qu'en ce moment, on nous demande, et c'est assez difficile, de maintenir une connexion sociale tout en essayant de créer une distanciation sociale, c'est assez difficile de conjuguer tout ça. Au niveau de la famille, n'hésitez pas, les vidéos chat, on en a parlé de la visioconférence, on en a parlé au niveau professionnel. Mais là, moi, j'embarque là au niveau personnel. N'hésitez pas à le faire aussi avec votre famille. Philippe, juste avant qu'on se parle, je pense que tu peux le dire, tu prenais l'apéro en visioconférence avec des collègues, des amis, de la famille.
Ouais, tout à fait. À défaut de pouvoir... On gère cet éloignement un petit peu, cette distance sociale un petit peu différemment du fait que ça fait 10 mois qu'on est au Québec. Donc forcément, on a une distance sociale avec tous nos proches, tous nos amis. De Suisse, on utilise les technologies qui sont au jour d'aujourd'hui pour faire face à ce défi. Par rapport à notre famille et nos enfants, les horaires et tout ça, essayez pas d'exclure vos enfants de votre télétravail. Je pense que c'est important de les intégrer à votre processus de télétravail. Ils sont là, il faut en tenir compte, il faut travailler avec, il faut faire avec. Vous allez mieux vous en sortir si vous les prenez en compte et puis si vous faites en sorte de faire avec plutôt que d'essayer de dire non, il faut qu'ils restent tranquilles dans leur coin, je veux pas les voir, etc. Ça va être très très compliqué et ça va vous causer beaucoup de problèmes. Et effectivement, c'est aussi l'occasion de découvrir une façon de vivre autrement, de vivre de nouveau avec ses proches, de vivre de nouveau ensemble. Je pense qu'il y a quand même des bons côtés à ces différents changements qu'on vit ces jours.
Oui, il va y avoir plein d'avantages. Là. On va se rendre compte que finalement, le télétravail, c'est possible. On peut avoir un certain rendement, ou même le même rendement, typiquement. Ça va forcer les gens qui étaient réticents à ça à commencer à s'intéresser aux applications. Ça va développer une nouvelle routine. On va se rendre compte que finalement, je peux faire ma journée de travail. Et le lavage que j'avais à préparer là, pendant la fin de semaine, ben, je peux le faire pendant mes pauses, juste changer la machine à laver ou partir une brassée. Ça prend 30 secondes à la maison, puis vous allez pouvoir le faire. Alors, il y a plein d'avantages. Le contexte est compliqué, ça c'est certain. Il est même des fois anxiogène. Si vous écoutez trop les nouvelles, faites attention de pas trop les écouter. Mais il y a un truc que j'ai retenu, que tu m'avais dit avant le COVID-19, et que je le mets dans les trucs. Habillez-vous le matin. C'est super important. Ayez quand même une routine de déjeuner à la même heure que d'habitude. Prenez une douche, tout ça. Ça, c'est un truc que tu m'as donné. Et franchement, pour vrai, ça fait la différence.
Je pense qu'il faut continuer à vivre comme on vivait avant, d'avoir une routine. Tu as fait assez d'émissions avec Guillaume Vendée sur le développement personnel, sur les habitudes, sur les défis 30 jours, sur des choses comme ça. L'être humain a besoin d'habitudes. L'être humain a besoin d'une routine établie, etc. Donc, garder une routine quand même, effectivement, le moyen de s'habiller, moi, je ne le fais pas non plus toujours. Il faudrait, mais je le fais toujours. Mais il faut le faire. Prenez votre routine, prenez le temps de déjeuner, faites des pauses aussi pendant le télétravail. Faites attention aussi à ne pas trop travailler. Oui, on peut travailler un petit peu plus parce qu'effectivement, on est à la maison, etc. Mais justement, on est à la maison, des moments, fermez l'ordinateur, coupez l'ordinateur. J'ai de la chance d'avoir un ordinateur autant j'ai la chance d'avoir un ordinateur professionnel et un ordinateur personnel. Ce qui permet, en fait, le soir, quand j'ai fini mon travail, de fermer mon ordinateur professionnel, de le mettre de côté, et puis finalement, sur mon bureau, reste mon ordinateur personnel, et puis là, je fais des choses qui m'intéressent de manière privée. C'est important de vous couper du travail, c'est important de ne pas faire trop d'heures non plus. Les entreprises sont en difficulté, c'est une chose. Donc, on doit chacun donner un petit peu plus que la normale, peut-être. Mais faites attention de ne pas vous faire manger par votre travail, et puis de continuer à avoir votre vie, continuer à avoir vos habitudes, continuer à prendre du temps pour vous. C'est quelque chose qui est important.
Oui, ouais, clairement. Bon, le COVID-19, il n'est pas dehors. Il est quand on est avec des humains et quand on se regroupe. Alors, vous pouvez encore vous promener dehors, prendre une petite marche dans votre rue, autour de votre pâté de maison. C'est important. Il y a des exercices que vous pouvez faire à la maison. Il y a plein de chaînes YouTube qui vont pouvoir vous le montrer. Ça, c'est clair. Au niveau du télétravail, c'est important de commencer sa journée avec une routine. Et si vous pouvez, dans votre routine, incorporer au début un petit peu d'exercice le matin, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Au niveau de la vie de famille, on en a parlé, utiliser les moyens technologiques pour briser l'isolement. Moi, j'expérimente depuis plusieurs mois Messenger Kids, qui est une application de Facebook. Oui, je sais, je suis pas une des meilleures personnes pour vous vendre les produits de Facebook, mais en ces temps compliqués, je dois quand même mettre un clin d'œil à cette application-là qui est relativement bien foutue pour les enfants, qui est nécessairement bien sécurisée sur l'aspect supervision des parents. Les enfants peuvent pas parler à personne d'autre si ça n'a pas passé par vous. Vous pouvez bloquer les heures de visioconférence, bloquer certains paramètres. Alors, Messenger Kids, on doit le dire, c'est triste à dire, mais quand même, Facebook, c'est le moyen le plus simple pour se réunir parce que tout le monde est sur Facebook maintenant. Alors, Messenger Kids, c'est le moyen pour mes enfants de pouvoir parler à leurs grands-parents, simplement. C'est le moyen aussi pour mes enfants de commencer à continuer, en fait, parce que toi, comme moi, nos deux garçons sont chez les scouts. Ben, c'est des moyens via Facebook qu'on a avec les scouts pour garder un lien qui est important pour eux autres. Ils font des défis. On est bien contents en ce moment de faire des défis avec les scouts. Fait que essayez de trouver des technologies pour que vos enfants ne soient pas pris à mal. Et ben, il y a toutes sortes d'activités qui peuvent se faire en famille, mais ça, on les connaît tous. Est-ce que tu avais d'autres points à rajouter pour le télétravail et la conjuguer le télétravail et la famille, toi, Philippe?
Oui, peut-être par rapport aux horaires, parce qu'on en a, tu l'as évoqué entre ta conjointe et toi pour des quarts de travail finalement entre vous. Mais si vous ne pouvez pas le faire comme ça, regardez aussi si vous avez la possibilité peut-être de modifier vos horaires, dans le sens où pourquoi pas faire une tranche de, on va dire, de 6h à 10h le matin, ensuite une deuxième tranche de 13h à 15h, et puis ensuite une tranche le soir quand il vous reste quelque chose à faire. Ça va vous permettre, en fait, dans la journée, de passer aussi du temps avec les enfants, peut-être de sortir prendre une marche quand il fait jour, ou quand il fait beau, entre peut-être en deux averses s'il pleut, ou comme ça. Donc, ajustez-vous aussi, si vous avez la possibilité de le faire, encore une fois, vous avez vos journées de travail, vous avez vos missions à accomplir, vous avez vos objectifs à atteindre, etc. Mais il n'y a rien qui vous dit, ou en tous les cas, si vous avez la chance d'avoir une entreprise qui ne vous le dit pas, que vous devez le faire en telle heure et telle heure. Comme vous êtes à la maison, vous pouvez le faire de manière un petit peu décalée. Ce qu'on ne peut pas forcément faire sur son lieu de travail parce qu'on a le trajet qui rentre en ligne de compte. Donc, une fois qu'on y est, on y reste. Mais là, simplement, vous prenez votre ordinateur, vous faites quelque chose, vous passez un petit moment avec vos enfants. Je pense que ça aide aussi de ne pas s'isoler pendant 8 heures dans la journée et tout ça. Et puis, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux n'ont jamais autant bien porté leur nom qu'au jour d'aujourd'hui. C'est un peu tout ce qui nous reste, concrètement.
Ah oui.
Pour avoir une vie sociale, donc allez-y. Petite remarque, peut-être pour Facebook Messenger Kids, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible partout. Je sais qu'en Suisse, il n'est pas disponible, exemple.
Okay.
La France et la Belgique, je ne sais pas du tout pour les autres pays francophones, mais c'est possible qu'il ne soit pas.
Ah, ok, bon, ben désolé. S'il n'est pas disponible dans votre pays, il va super bien dans le mien, en tout cas.
Voilà, on a la chance d'avoir ici, donc on en profite.
Effectivement. Petit mot de la fin sur la conclusion. Tu m'as donné une réflexion parce que ça faisait plusieurs fois que je disais d'isolement et tout ça. Puis tu m'as dit une phrase, puis je te la laisse la lire et puis l'expliquer. C'est en bas de la conclusion.
Je pense qu'il faut pas se focaliser sur la partie isolement. Oui, c'est quelque chose de nouveau qu'on a, etc. Mais je pense qu'il faut essayer d'en tirer les avantages qu'on peut. C'est-à-dire passer du temps en famille, être avec sa famille proche, là, ses enfants et tout, en profiter. Alors, c'est plus facile à dire quand on a une famille que quand on est tout seul en isolement dans un studio de 9 mètres carrés. Ça, c'est clair. Mais profitez aussi de renouer, de prendre le contact de vos proches sur les réseaux sociaux, de vous mettre à la lecture, de prendre des cours de yoga, d'être inventif, de faire vous mettre à la peinture. Mais profitez de ça pour créer des nouvelles opportunités, pour faire des cours, des formations.
Oui.
Essayez d'apprendre quelque chose dans les fameux hashtags que tu mets. Profitez d'apprendre, de continuer à... En fait, d'en faire une force, finalement, le fait de devoir rester à la maison. Parce que si vous vous focalisez sur le fait « Ah, je suis tout seul, je vois personne, mais je commence à être triste, je commence à m'ennuyer », je crois que vous n'allez jamais vous en sortir. Donc vraiment, vraiment, essayez de tirer le meilleur de... Mais c'est comme ça dans la vie, en fait. Essayez toujours de tirer le meilleur de chaque situation.
Hey, c'est tellement beau. Et puis, un petit truc que Priscille Livenet a donné dans un de ses podcasts. Pour reprendre contact, forcez-vous à reprendre contact. Et peut-être je vais vous donner un défi. Dans les prochains jours, vous prenez votre iMessage ou l'application que vous utilisez le plus, votre WhatsApp et ainsi de suite. Puis bien souvent, les communications les plus récentes, c'est celles que vous voyez. Ben, swipez en bas, puis commencez à dire « Allô, bonjour, comment ça va? » à la dernière communication que vous avez faite pour pouvoir renouer à des vieux contacts. Et puis, ben, peut-être en faire un par semaine, un nouveau contact, un nouvel ancien contact qui pourrait être intéressant à raviver. Alors bref, ça met fin à cette émission spéciale sur le télétravail. Si vous avez des trucs, n'hésitez pas à les partager pour ceux qui sont sur Patreon, qui vont recevoir l'émission sur la page Patreon. Pour ceux qui sont sur le groupe Facebook, n'hésitez pas, Instagram et ainsi de suite. Je vais essayer d'envoyer l'émission le plus rapidement possible parce que je pense qu'elle est importante. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas, vous pouvez le faire à partir de 2 $ par mois pour avoir le podcast privatif, 5 $ par mois pour avoir le podcast privatif et des capsules, le vlog, et 10 $ par mois si vous voulez le tout avec les guides. Et si vous voulez, vous pouvez m'écrire directement, les liens sont dans les notes de l'émission. Et si vous souhaitez m'encourager d'une autre manière, c'est assez simple. Vous partagez l'émission, vous mettez un 5 étoiles sur iTunes ou sur une autre plateforme qui vous donne le loisir de noter l'application. Et évidemment, vous mettez toujours la note la plus haute parce que il n'y a que comme ça que ça marche bien un podcast quand vous mettez la note la plus haute. Et puis, je vous souhaite un très bon télétravail, un très bon confinement et surtout, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Lavez-vous les mains. Philippe, merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui.
Avec plaisir. Au revoir.
Salut. Ciao, ciao.